Chapitre 41. Toutes les dispositions prises avec son avoué pour l'arrangement de ses affaires, Roger rentra chez lui rapidement. « Préparez-moi promptement, dit-il à son valet de chambre, tout ce qui peut m'être nécessaire en linge, vêtements et chaussures pour un long séjour à la campagne. Puis vous ferez porter les malles à la gare de Lyon pour 7 heures ce soir et vous m'attendrez au buffet. » « Je pars avec monsieur le duc ?»« Non. » Bernard, malgré son envie, n'osa pas en demander davantage. Déjà, le duc avait ouvert son bureau et s'était mis à écrire. Sa main courait si rapidement sur le papier qu'elle traduisait bien certainement une pensée réfléchie et arrêtée. « Tu as bien fait, chère Christine, de ne pas désespérer de moi. » Tu as bien fait surtout de penser qu'un mot de toi aurait le pouvoir de me rappeler à la raison, car c'est à toi qu'appartient tout le mérite de la résolution que je viens de prendre. Je quitte Paris et j'abandonne sans regret l'existence que tu blâmais et qui te désespérait. Voilà la résolution que ton bon et vaillant petit cœur me suggère. Voilà ce que ton affection obtient. Tu craignais de me déplaire avec ta sagesse et tes doux conseils. Tu m'as rendu glorieux, fier de moi. Tu pensais que j'oublierais ta lettre, et cette lettre, je l'ai lue 20 fois, je me sentais grandi par les sentiments de tendresse que tu me gardais. Quelque chose de puissant me relevait, et je me sentais digne de ton amitié. Dans la crise effroyable que je traverse en ce moment, cette lettre est mon appui, mon sauveur, le bras qui me soutient, l'étoile qui me montre mon chemin et me guide. Je pars pour Varage, où je vais travailler et essayer de devenir un homme. Et je pars avec un maître dont je vais me faire l'écolier docile. Sois tranquille, je ne me rebuterai point, je ne désespérerai point, et ce sera sans révolte comme sans dégoût que j'accepterai tous les ennuis ou toutes les difficultés que va me créer ma résolution. Et si je faiblis quelquefois, je me retremperai dans ton souvenir. Es-tu contente ? Que je voudrais le savoir, que je voudrais voir tes yeux se lever sur moi, souriants et rassurés. Pourquoi les circonstances nous séparent-elles? Pourquoi nous ont-elles tenus loin l'un de l'autre? J'aurais été meilleur en ne te quittant pas, et les coups qui me frappent m'eussent été sans doute épargnés. Je ne veux rien dire, chère Christine, qui puisse te blesser ou te peiner, si légèrement que ce soit. Mais s'il y a des fautes dans ma vie, je crois que je n'en suis pas seule responsable. J'avais besoin de tendresse, de douceur, de ménagement. J'avais besoin de me sentir soutenue par l'amour d'une famille et j'ai été repoussée si cruellement par ceux qui auraient dû m'entourer et m'aimer que, sans toi, je serais restée plongée dans un noir abandon. Ton sourire a éclairé ma jeunesse, l'a réchauffée, mais il m'est arrivé un jour où ce sourire m'a manqué et où je suis restée seule. Par bonheur, je le retrouve, ce sourire, au moment même où je roule au plus profond de l'abîme, et, une fois encore, il me sauve. Dans les bouillonnements tumultueux de mon esprit, tes paroles me reviennent. Elles s'imposent et me font réfléchir. Ce que je ne trouvais pas moi-même, emporté, affolé que j'étais par l'exaspération et la douleur, elle me l'inspire en me faisant comprendre que je dois me réserver à un autre avenir que celui que je me préparais et qu'il y a des devoirs qu'un homme de mon rang n'a pas le droit d'oublier sans déchoir. S'il m'est impossible, malgré l'ambition que j'en ai, d'ajouter une gloire à mon nom, je veux du moins tout faire pour ne point l'amoindrir. Ne crains donc plus pour moi, chère Christine. Pendant plusieurs années, ma vie va être régulière, tranquille, cachée. Elle sera remplie du souvenir de tes conseils et de plus, elle sera soutenue par la pensée de devenir personnellement quelqu'un, par la volonté de me rendre bon à quelque chose. Certes, je n'espère plus l'existence qui aurait peut-être été la mienne si, à mes premiers pas dans le monde, j'avais su, j'avais pu, ou si on avait voulu. Mais enfin, tout n'est pas perdu et bien des choses peuvent se réparer encore. C'est à cela que je vais travailler, c'est le but que je vais poursuivre virilement et courageusement. Si la solitude m'est triste, et s'il est possible qu'elle me le soit, elle me donnera au moins la joie de pouvoir penser à toi et d'évoquer ton image. Cette joie, Je me l'étais interdite au milieu de la vie que je menais. Te mêler, si peu que ce fût à mon milieu, eût été te faire injure, et pour rien au monde, je n'aurais voulu te voir apparaître dans ce cadre indigne de ta pureté. Mais dans les bois silencieux de Varage, lorsque rien ne viendra me troubler, me distraire ou m'occuper, je pourrai librement penser à ma chère Christine que je verrai, dont l'auréole de ses boucles blondes m'approuvait et m'encourageait comme une bonne petite sœur, comme une fée. Ainsi, après m'avoir aidé à me reconquérir, tu me soutiendras. Adieu donc, jusqu'au jour où nous pourrons nous revoir. Accompagne-moi de tes pensées. Roger. Je ne puis te faire parvenir cette lettre qu'au moyen d'un subterfuge. Je dois donc t'en écrire une seconde que tu pourras avouer et montrer si on demande à la voir. Quant à ce que je viens de te dire en laissant parler mon cœur, personne n'en saura jamais un mot, n'est-ce pas? Tu ne sais rien, ni de moi, ni de mes résolutions. Et tout de suite, prenant une autre feuille de papier, il écrivit. Puisque tu es la seule personne de ma famille qui m'ait témoigné de l'affection et de la sympathie, je ne veux pas quitter Paris sans te faire mes adieux, regrettant beaucoup de ne pouvoir te les adresser que par ce court billet. Je t'embrasse tendrement, ma chère Christine. Ton cousin, Roger. Ayant plié ces deux lettres, il les mit sous une même enveloppe qu'il ferma et scella soigneusement et sur laquelle il écrivit « Mademoiselle Christine de Condrieu-Revel ». L'heure avait marché, il était près de 5h30. Il sortit et, prenant une voiture, il se fit conduire au palais du Sénat en recommandant au cocher de marcher aussi rapidement que possible. « Monsieur le comte de Condrieu-Revel est-il en séance ?» demanda Roger à un huissier. Celui-ci répondit affirmativement en ajoutant que la séance allait se terminer d'un instant à l'autre, de sorte que ce n'était pas la peine de déranger monsieur le comte de Condrieu qui allait sortir. « Très bien, répondit Roger, je vais l'attendre. » Mais au lieu de l'attendre, comme il le disait, il courut à sa voiture. « Rue de Lille, au galop !» À cette heure-là, il n'y avait pas à craindre de rencontrer Ludovic, car c'était un des jours où il se rendait dans une parlotte où, avec d'autres jeunes gens qui se préparaient comme lui à la vie politique, il s'habituait à parler longuement et savamment pour ne rien dire. Christine devait donc être seule à l'hôtel. Ce fut avec émotion qu'il monta les marches du perron, au haut duquel se tenait un domestique en grande livrée. « Mademoiselle Christine !»« Mademoiselle est dans son appartement. » Il respira. « Alors faites-lui porter tout de suite à cette lettre qui est pressée. Il n'y a pas de réponse. » Il ne put pas traverser la cour sans se retourner et sans lever les yeux vers ses fenêtres. Mais il ne la vit point. Ce fut avec un cruel serrement de cœur qu'il monta dans sa voiture. « Adieu, jusqu'au jour où nous pourrons nous revoir, » avait-il dit dans sa lettre, « et peut-être ne la reverrait-il jamais. Quand il reviendrait à Paris, ne serait-elle pas voilée et cloîtrée? Un seul cœur l'avait aimé, l'aimait, et il fallait qu'il se séparât de lui. « Où allons-nous ? » demanda le cocher. Roger tira sa montre. Il était 6h et il n'avait plus rien à faire dans Paris. « À la gare de Lyon, » dit-il, « aussi lentement que vous voudrez. » Il se tassa dans un coin, se laissant aller à la prostration qui, après ces quelques heures de lutte, d'agitation, de fièvre, s'emparait de lui. C'était fini, rien ne le soutenait plus. Il ne trouva point Crozat au buffet, mais après l'avoir attendu pendant un quart d'heure environ, il le vit arriver, toujours vêtu de son éternel habit noir et coiffé de son gibus en mérinos. Les poches de son habit, celles du côté comme celles des pans, paraissaient pleines à crever, pleines de livres dont on devinait la forme. À sa main, il portait en la dandinant une espèce de valise, de porte-manteau, de sac, moins plein que ses poches, assurément. S'étant assis à la table du duc, il tendit à celui-ci une petite brochure à couverture jaune qu'il tira d'une de ses poches. « Votre exemplaire du comte et la marquise que vous aviez oublié, dit-il, je vous l'apporte. Cela pourra vous fournir une lecture pour le voyage. » Roger s'excusa en quelques mots, Puis il pria Crozat de s'entendre avec Bernard pour l'enregistrement des bagages. « Mais voilà mon bagage !» dit Crozat, montrant sa valise. Crozat fit honneur au dîner et mangea pour deux, mais silencieusement, en respectant la préoccupation de son élève. Enfin, on monta en wagon. La cloche sonna, le sifflet de la machine retentit et le train s'ébranla lentement. Roger et Crozat étaient assis en face l'un de l'autre. Celui-ci pencha sa tête par la glace ouverte et, pendant quelques instants, il regarda les lumières qui, au loin, piquaient çà et là l'obscurité. « Adieu, Paris » dit-il. « Adieu !»« Non !» dit Roger. « Au revoir !» Fin 2. Raphaël. L'épisode qui suit a pour titre « La Duchesse d'Arverne ».